Pierre Veil, vous prenez en main le journal politique de la semaine.
Les événements marquants commentés par Laurent Geoffrin, le directeur de Libération. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de L'Express. Bienvenue Christian.
Bonjour Pierre.
La crise autour du barrage de Sivens dans le Tarn et la mort de ce jeune manifestant Rémi Fraisse, le gouvernement a-t-il mis trop de temps à réagir et à prendre conscience de la gravité de la situation, Christian Macarian ?
Je ne pense pas que la faute doive porter spécialement sur le gouvernement. Je suis désolé de choquer, mais je pense qu'il s'agit d'un accident et qu'il était infiniment regrettable, ça va sans dire. Mais je ne pense pas que la polémique qui s'est enclenchée après les événements soit tout à fait à la mesure des choses. Il faut rappeler quand même un certain nombre de réalités. Il y a eu un processus démocratique au Conseil général du département pour décider de ces travaux. Ensuite, ils ont été entamés. On peut apprécier ou pas apprécier, mais enfin, ça a été voté, je crois, de mémoire, à 43 voix sur 46. C'est quand même considérable. Il y a l'avenir d'une vallée, son irrigation, les besoins d'agriculture. Ça n'est pas sorti du néant. Et la façon dont on conteste les autorités élues, les décisions élues, et de la façon dont on combat l'autorité de l'État, à mon avis, pose deux problèmes centraux, et j'irai plutôt vers ça. D'abord, l'autorité de l'État sur le territoire, et deuxièmement, un énorme problème du rapport à l'aménagement au territoire. Là, il y a précisément, on est en train d'entreprendre une grande réforme régionale, c'est une alerte, il faut faire très attention à la manière dont on remodèle l'espace. Il ne s'agit pas d'espace urbain, il n'y a pas de drame, il n'y avait pas des foules, des masses, ou une surpopulation, ou des injustices sociales. Il s'agit d'aménagement du territoire, il faut faire très attention.
Justement, à ce propos, Laurent Geoffrin, alors, cette suspension de ce chantier, est-ce que c'est, comme le disent certains élus du Tarn, la victoire de groupes minoritaires, altermondialistes, écolos, qui ne représentent pas l'intérêt général, les zadistes qui font la une ce matin de Libération, ZAD, ces zones à défendre?
Les zadistes, c'est un mouvement pour l'essentiel pacifique. Hein. C'est pas, il y a des éléments violents, c'est vrai, ils existent. Et il faut les dénoncer. D'ailleurs, les responsables écologistes les dénoncent. Oui. Quand vous prenez José Bové, qui est dans Libé, justement, il se démarque très clairement des méthodes violentes. Pareil pour Emmanuel Cos, qui est une responsable des Verts. Donc là, Et je voudrais remarquer une chose, c'est que quand la FNSEA, je crois que c'est la Fédération des agriculteurs, parle de djihadistes verts, je trouve qu'ils sont quand même gonflés. Parce que la violence déployée par les agriculteurs dans un certain nombre de circonstances est très supérieure à celle qu'on a vue sur la ZAD de Sivens, quand ils sont allés saccager le bureau d'un
ministre. Le centre des impôts de Morlaix.
Le centre des impôts de Morlaix. Et après, y a des peines avec sursis. Et encore, quand on cherche les coupables, on ne les cherche même pas. Donc il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que les écologistes sont stigmatisés, les activistes agriculteurs ne le sont pas. Au contraire, ils bénéficient d'une sorte d'indulgence. Donc je trouve que ce discours-là est tout à fait contestable. L'erreur dans cette affaire, je crois, c'est que les élus se sont entêtés sur un projet qui était manifestement surdimensionné, puisqu'ils le reconnaissent aujourd'hui. Puisque maintenant, il y a eu un rapport de l'État, de l'État central, qui a dit « Regardez, ce projet coûte trop cher, il est trop grand, on pourrait faire mieux avec moins d'argent, avec des retenues, comme on dit, collinaires. » Je connais rien, mais j'ai lu ça. Et donc, il y avait des possibilités différentes. Ça pose le problème de la démocratie, la procédure démocratique. C'est vrai que c'était légal. C'est vrai que ce sont les élus qui ont décidé. Mais il y a parfois, en face des décisions légales, une légitimité plus forte, qui est lié à la défense de l'environnement. Et ça, on n'en a pas tenu compte. On s'est acharné sur la construction de ce barrage et ça a fini par déboucher sur un drame.
Je reviens sur la mort de Rémi Fraisse. Est-ce qu'on peut dire que face à la contestation parfois violente, que ce soit la gauche ou la droite, eh bien la réponse des autorités est toujours la même, la répression, des bavures. Je veux dire, la droite a eu Malik Oussekine en 86, et voilà, la gauche est là, Rémi Fraisse.
Ça n'est pas comparable. Oussekine, il avait été coursé par un motard qui l'avait suivi et qui l'avait tabassé sous une porte cochère. C'est pas du tout la même chose. Enfin, on va voir exactement quelles sont les circonstances, mais là, c'était en pleine nuit, les gendarmes défendaient un... Alors, on peut dire qu'il n'aurait pas dû être là, d'accord, mais bon, ils étaient là, ils défendaient un terrain, et ils ont été attaqués. Ils ont envoyé une grenade. Ces grenades, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, ces grenades existent depuis 60 ans. Il n'y avait jamais eu de mort jusqu'à présent. C'était un concours de circonstances incroyable. Donc c'est un peu facile de dire, oui, c'est de la faute du gouvernement à chaque fois. Non, les responsabilités sont partagées. Les autorités se sont acharnées sur un projet douteux, mais il y a parmi les écologistes des gens qui vont trop loin, manifestement.
Christian Macarian.
Oh, juste un mot, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Laurent Geoffrin, mais on assiste tout de même à une opposition extrême du côté écologiste contre un gouvernement qui comptait au départ des écologistes en son sein. Donc il y a là une nouvelle forme de contestation qui affaiblit l'autorité gouvernementale, qui affaiblit l'autorité centrale, et c'est en soi très préoccupant.
Mmh. Vous n'avez pas le sentiment quand même que le gouvernement s'est mis à dos une partie de la jeunesse avec... ce drame, la mort de
Non, qui va paraître aujourd'hui, montre que les jeunes de 18 à 24 ans sont une très large majorité à désapprouver ce mouvement-là. Donc, je ne suis pas sûr du tout que ça trouve un relais dans l'opinion publique.
Sur Libération.fr, on a diffusé une vidéo. On voit très clairement un jet de cocktail Molotov et un policier qui prend feu. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites, où est la violence là ? De quel côté se situe la violence ?
Politique maintenant, une phrase très remarquée de François Bayrou cette semaine. François Bayrou qui dit que François Hollande ne pourra pas tenir jusqu'en 2017 sans dissoudre l'Assemblée nationale. Il va dissoudre, affirme de son côté Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce que c'est une issue envisageable, possible pour sortir de la crise actuelle, Laurent Geoffrin ?
J'en crois pas un mot et je pense qu'ils prennent leur désir pour des réalités. Pourquoi dissoudre ? Il y a une majorité à l'Assemblée et le président est élu pour 5 ans. Et il a à sa disposition un certain nombre d'outils constitutionnels pour se maintenir. Même si sa majorité regimbait, il y a un article qui a été utilisé dans le temps très souvent qui s'appelle le 49-3 qui oblige la majorité soit à voter un projet de loi, soit à renverser le gouvernement. Les socialistes veulent-ils renverser le gouvernement socialiste ? Ça me paraît peu probable.
Christian Macarian.
Oui, traditionnellement, d'abord, sous la Ve République, la dissolution est rarement heureuse. Et quand elle le fut, c'était précisément contre l'opposition. Là, dissoudre contre son propre camp, je ne vois pas très bien la logique. Donc on a du mal à suivre. Cela dit, d'autre part, on mesure très mal, semaine après semaine, comment ce gouvernement et comment François Hollande peut continuer à gouverner le pays compte tenu de la contestation interne. Ça c'est incontestable. Et je crois que c'est de l'amoncellement des difficultés que proviennent ces rumeurs de dissolution, beaucoup plus que d'un calcul raisonnable.
Laurent Geoffrin ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a une dissolution, les socialistes reviennent à 1 sur 10. Quoi. Mm-hmm. C'est la décimation, mais à l'envers. Donc, c'est pas du tout leur intérêt. Ça ne peut se produire que s'il y a un blocage dans le pays. Hein, si j'en remets 68, quoi, à ce moment-là,
puis il y aurait une absurdité.
Il n'y a plus de légalité, il n'y a plus rien. Alors, on dissout l'Assemblée pour revenir devant le peuple.
C'est ça.
C'est la seule hypothèse qui me paraît crédible. Ça peut se produire, d'ailleurs, mais on n'est pas là du tout.
Il y a une absurdité à dire « je dissous parce que mon propre camp m'empêche de gouverner et qu'en plus, l'opposition est contre moi ». Donc je vois, là il n'y a plus aucune logique institutionnelle.
Alors justement, après la mort de Rémi Fraisse, on dit que dans le pouvoir, on craint une seule chose maintenant, c'est une explosion sociale, une contestation qui ferait tache d'huile.
En France, ça s'est déjà vu, oui, ça c'est sûr. Oui. En 95,
il y aura des manifestations, par exemple, aujourd'hui, de solidarité avec Rémi Fraisse à travers la France.
Le terrain est inflammable, c'est vrai.
Mais j'ajoute un point sur la dissolution qui ne plaide pas en faveur de la dissolution, à mon avis. C'est que, aussitôt à supposer que le président dissolve, aussitôt que ce sera fait, le débat portera, mais dans les jours qui suivent, sur lui-même et sur sa présence et sur son siège à l'Élysée. Donc le débat va se déporter encore plus sur lui. Et là, pour le coup, la question sera celle de la démission et non plus de la dissolution.
En plus, ce que dit le président en privé, c'est qu'il espère que dans un an, les choses aillent mieux sur le plan économique, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs plus favorables. Et donc, il se dit, j'ai peut-être une chance, malgré tout, de rétablir un peu ma situation. Donc, pourquoi irait-il dissoudre ?
Et donc, le président qui parlera, qui sera interviewé par des Français, jeudi prochain, sur TF1, on peut encore l'entendre ?
Il est temps qu'il réponde à deux questions. Un, quel type de société il prépare ? Deux, est-ce qu'il est toujours de gauche ? Mm-hmm. Ce sont les deux questions clés, à mon avis.
Et à votre avis ? Laurent Geoffrin.
Les signaux qui ont été envoyés récemment ne sont pas très à gauche. Donc, et s'il veut avoir une chance de récupérer un peu dans l'opinion, ce n'est pas auprès de l'électorat de droite qui, de toute façon, lui sera hostile, quoi qu'il arrive. Il ne peut reconquérir un peu l'opinion qu'à gauche. Donc, il faut qu'il parle à la gauche.
Christian Macarion.
Et je pense exactement le contraire. Je pense
Je
pense qu'il ne pratique plus une politique de gauche. C'est manifeste pour tous les Français depuis un bon moment, qu'il soit de gauche ou de droite. Et qu'il s'est engagé, en particulier par la nomination de Manuel Valls, dans une autre voie. Et que cette voie est condamnée à avancer, sans quoi ce sera l'effondrement.
Christian Macarion, Laurent Geoffrin, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin dans ce studio de France Inter.